À voix nue, Caroline Brouet, cette semaine avec...
Michèle Perrot, historienne.
Troisième épisode, construire l'histoire des femmes. Bonsoir Michèle Perrot.
Bonsoir Caroline Brouet.
Ce soir, j'aimerais que vous nous parliez de la préoccupation centrale qui fut la vôtre des années 70 à aujourd'hui. Nous sommes en 2023. Que vous nous expliquiez et que vous nous racontiez comment vous avez bifurqué une nouvelle fois de l'histoire des ouvriers à celle des marges, ce qu'on a vu hier, et puis de l'histoire des marges et des prisons à celle des femmes. Et puis comment, avec d'autres, vous avez contribué à écrire cette histoire, une histoire qui n'existait pas. Cette histoire des femmes et celle du féminisme, qui lui est étroitement lié, bien évidemment. Et bien sûr, nous verrons également comment vous voyez les choses aujourd'hui, avec cette formidable libération, deuxième libération, ce mouvement MeToo, depuis 2017. Commençons donc par le début, mais même pas par les années 70, par 1960, quand en 1960, vous étiez à la Sorbonne à ce moment-là, hein, mais vous étiez à la Sorbonne comme assistante de recherche d'Ernest Labrousse, vous étiez la seule femme enseignante, et les professeurs parlaient de l'Assemblée en disant « ces messieurs ». Vous étiez dedans. Est-ce que c'est à ce moment-là, vous diriez, que vous avez pris conscience du problème avec les femmes ?
Oui, peut-être, mais je ne peux pas dire que j'y attachais beaucoup d'importance. C'est vrai que dans les réunions à la Sorbonne, quand il s'agissait d'organiser les examens, les professeurs réunissaient les assistants et j'étais la seule femme. Oui, comme vous venez de le dire à l'instant, ils disaient ben, « bonjour messieurs ». Bon, et moi, ça me faisait rire. Ça me faisait rire, c'est tout. Mais je me sentais pas plus mal pour autant. Donc, ma conscience féministe était relativement réduite. Je ne voyais pas le problème des femmes. Enfin, je me voyais avançant. Et nous avons eu l'occasion de parler de Mona Ozouf et Nicole Ledouarin, mes deux amies de Caen, qui continuaient, elles aussi, à faire leur carrière, l'une philosophe puis historienne, l'autre grande biologiste. Et bien sûr, nous étions un petit peu des exceptions dans notre milieu. Mais c'est pas désagréable d'être une exception, c'est ça. Hein, c'est que, d'autant plus qu'on ne rencontrait pas d'hostilité. On ne menaçait personne. On n'était pas très nombreuses, de toute façon. Donc, c'était pas désagréable. On ne vivait pas ça comme quelque chose de désagréable.
Et puis, vous avez eu de la chance,
vous
diriez aussi.
Beaucoup de chance.
Avec les hommes, votre père, votre professeur, Ernest Labrousse, votre mari.
Oui. C'était des hommes féministes.
Vous avez été gâtée.
Oui, j'ai eu beaucoup de chance avec mes hommes, ça. Alors. Comme Monsieur Seguin, qui n'avait pas de chance avec ses chèvres. Moi, j'avais de la chance avec mes hommes. Donc,
il a fallu attendre les années 70 pour que...
Oui, absolument.
L'histoire des femmes, ou ce problème d'absence d'histoire des femmes, vous saute aux yeux.
Oui, bien sûr, absolument. Le mouvement de libération des femmes, c'est les années 70. Il faut d'ailleurs voir que les jeunes femmes qui avaient participé à 68 en grand nombre, parce qu'il y avait quand même de plus en plus de filles à l'université, donc elles étaient là. Hein, et elles ont dit au lendemain de 68, mais et nous hein, on n'a pas parlé de nos problèmes, on n'a pas parlé de nous. Et c'est à ce moment-là que les grands mouvements des années 70 pour l'avortement, la contraception, il y avait une loi de 67. Mais les pharmaciens demeuraient extrêmement réservés quant à donner la pilule ou autre produit contraceptif. Donc tout ça, c'était vraiment tabou dans l'ombre. Et les femmes ont dit, mais et nous ? Et ça a été le MLF, le Mouvement de Libération des Femmes, qui a été très très intense dans les années 71, 72, 74, les grands procès, hein, Gisèle Halimi, Bobigny, et puis il y aura Aix-en-Provence en 78 avec la loi sur le viol, et il y a eu la loi Veil en 75. Donc, c'est des mouvements absolument intenses. Ce sont les femmes qui marquent, à ce moment-là, la majorité des manifestations de rue.
Hein. Vous manifestiez ?
Ah oui, vous étiez, vous ? Oui. Moi, je manifestais beaucoup. J'avais pas un rôle de responsabilité particulière à ce moment-là. J'allais dans les manifs, voilà. Mais j'étais à Jussieu et j'avais toutes mes amies. Par exemple, Françoise Bache, qui est décédée il y a peu de temps. Françoise Bache était professeure d'anglais, pendant que moi en histoire. Elle avait le contact avec les Américaines. Elle était très féministe, peut-être même plus que moi à l'époque. Et elle organisait des rencontres auxquelles j'ai participé. Je me suis fait mon éducation. Et en 73, je nous revois toutes les deux dans une manif, d'ailleurs, à la Bastille. Et on parle, toutes les deux, et on se dit, il faudrait qu'on fasse un groupe d'études féministes à Jussieu. Et on a fait un groupe d'études féministes à Jussieu. C'est-à-dire un groupe où venaient celles qui voulaient, mais cette fois-ci pour discuter entre nous. Parce qu'il y a eu un vote, et on a voté pour être entre femmes. Hein, pour discuter de nos problèmes, de la manière dont on allait les poser, etc. Ça, c'était en dehors des cours. C'était un groupe pour nous. Parallèlement, avec mes amies historiennes, cette fois, Pauline Schmitt, Christiane Clapy, Charlotte Farge, avec laquelle je travaillais beaucoup à l'époque, hein, on avait un groupe d'histoire, alors là, en dehors du féminisme. Et là, on voulait s'approprier les études, notamment des Américaines, qui étaient quand même beaucoup plus avancées que nous. Il y en avait qui allaient aux États-Unis, qui revenaient avec des bouquins, on s'appropriait tout ça. On s'est fait à ce moment-là une véritable culture féministe et historienne des femmes. C'est comme ça que je me suis dit un jour, mais je suis prof à Jussieu, je fais des cours sur le monde ouvrier, je fais des cours sur les prisons, j'en faisais en effet avec Arlette Farge d'ailleurs, et je fais rien sur les femmes. Là encore, je demande à deux de mes collègues, est-ce qu'on pourrait pas lancer un cours sur les femmes? Et en 73, hein, premier cours sur les femmes, alors, octobre 73, les femmes ont-elles une histoire?
Voilà. Et à ce moment-là, la réponse était non. Enfin, elles ont une histoire, bien entendu, elles ont une histoire. Mais disons que les femmes n'étaient pas sujets d'histoire. Elles étaient absentes du récit historiographique, c'est ça?
Oui, c'est ça. Il faut bien voir les deux sens du mot histoire. Histoire, c'est ce qui s'est passé. Évidemment, les femmes étaient dans ce qui s'est passé. Et c'est, deuxièmement, le récit que l'on fait de ce qui s'est passé. Et les femmes étaient absentes de ce récit. Absolument. Oui, absolument.
C'est comme la phrase de Marguerite Durand, la première femme à avoir fondé un journal en 1897, qui disait « Si nous ne comptons pas, pourquoi nous compte-t-on ? »
Oui, c'est ça.
C'est un peu ça. Il fallait donc faire passer les femmes de l'invisibilité dans l'histoire à la visibilité. Alors comment vous y êtes-vous prise, Michel Perrault?
On a commencé par des cours. Et les cours ont amené des étudiantes qui voulaient des sujets de recherche. Donc, réfléchir à qu'est-ce qu'on peut bien donner comme sujet de maîtrise, quelles sont les sources, qu'est-ce qu'on va dire à ces étudiantes, ça a été une des manières de défricher les choses. Et puis, les publications ont commencé à se faire à ce moment-là. Hein. Livre collectif, L'histoire sans qualité, par exemple. Un des premiers bouquins qu'on ait fait sur les femmes, le mot « femme », on voulait même pas le faire apparaître. Et on l'a appelé « L'histoire sans qualité ». Et c'était pourtant entièrement sur les femmes. Ça nous montre à quel point ça nous posait problème. On commence à publier nous-mêmes, à chercher nous-mêmes. Voilà. Et moi, je m'intéresse beaucoup aux femmes dans les prisons. J'essaie de féminiser les sujets que j'avais abordé avant sans poser la question des femmes.
Aux ouvrières.
Aux ouvrières, par exemple, aux femmes délinquantes, aux prisons de femmes, et à donner des sujets là-dessus. Et puis, Georges Sand, je me suis beaucoup intéressée à Georges Sand, dont je suis devenue un petit peu spécialiste aussi.
Est-ce qu'on parlait déjà, dans ces premières années du cours sur l'histoire des femmes, de domination masculine? Ou est-ce que c'est arrivé plus tard, ça?
L'expression qui était plus employé, c'était patriarcat. Dans les années 70-80, on dit beaucoup plus patriarcat que domination masculine. Mais c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que on réfléchit en termes de système. C'est ça qui est intéressant. En faisant l'histoire des femmes, vous l'avez dit, il y a une première chose, c'est rendre visible. Ça, c'est vrai. Sortir du silence, rendre visible, ça, c'est très important. Mais il y a aussi réfléchir plus fondamentalement au rapport masculin-féminin. Pourquoi est-ce qu'ils sont ce qu'ils sont? Et pourquoi est-ce que oui, la domination masculine, on va bientôt la nommer, existe toujours. Et c'est à ce moment-là que on réfléchit davantage en termes de concepts. C'est pourquoi on va accueillir au milieu des années 80 le concept de genre, qui vient aussi des États-Unis. John Scott, par exemple, qui publie un article traduit en français en 86, « Le genre, un outil utile de l'analyse historique ». Du coup, voir les deux ensemble, voilà. Pas se contenter de décrire les femmes dans tel lieu. Oui, c'est très bien, il faut le faire. Mais en faisant cette description, poser la question des rapports entre les sexes. Pourquoi est-ce que ces rapports entre les sexes sont ce qu'ils sont? Et est-ce qu'il y a eu dans l'histoire des périodes où c'était pas comme ça? Parce qu'il y a eu des hypothèses là-dessus. Il y en a plein. Il y en a qui disaient, à l'origine des temps, il y a eu le matriarcat. Les anthropologues du 19e siècle, Morgan, Barofen et Engels, qui n'était pas anthropologue, mais qui suivait les anthropologues, disaient oui, au début était le matriarcat. Et les femmes ont perdu le pouvoir. Et Engels disait, alors lui, il disait, c'est le capitalisme. Donc, il suffit de faire la révolution sociale et ça réglera le problème des femmes. Voilà. Ce que, évidemment, nous ne croyons pas du tout. Mais c'était intéressant, tout de même. Alors, tout cela, ça donnait lieu à beaucoup de travaux, quand même, beaucoup. Des séminaires multiples, il y en avait à l'École des hautes études, il y en avait à Paris 7, il y en avait dans d'autres universités, par exemple à Aix-Marseille, autour de ma collègue Yvonne Kibieler, Roland Trempé à Toulouse, c'était les points forts, là. Il y a eu effervescence, cours, recherche, production, on a fondé une petite revue qui s'appelait Pénélope. On l'avait appelée Pénélope exprès, en l'honneur de Pénélope. Mais c'était un tout petit bulletin, on avait très peu de moyens, donc c'était plutôt René Hotté. Je m'arrangeais avec les gens de Jussieu pour qu'ils fassent ça un petit peu en dehors de leur travail. On avait trouvé un monsieur très féministe qui avait dit oui, moi je suis féministe, je vais vous faire ça. Enfin, c'était assez drôle finalement.
Et puis il y a eu la très grosse entreprise de l'histoire des femmes en Occident, oui, avec Georges Duby, gros ouvrage en 5 tomes, oui, réalisé entre 1986 et 1991, qui a fait date.
Oui, oui. Alors ça, c'est tout à fait intéressant comme histoire. Georges Duby était l'initiateur avec Philippe Ariès de l'histoire de la vie privée, traduite en italien par Laterza, l'éditeur italien Laterza. Et Laterza, qui a eu beaucoup de succès avec sa Storia della vita privata, dit à Georges Duby, « Oh, mais monsieur, est-ce que ça serait pas intéressant de faire une Storia della donna ?» Une histoire de la femme. Georges Duby lui dit « Oui, oui, sans doute, il faudrait demander à Michel Perrault, parce que j'avais travaillé avec lui pour la vie privée. » Alors il me téléphone et il me raconte ça. Oh, je lui dis, oui, oh, oh, oh. Bon, j'en parle à mes amis, Schmitt, Clapiche, Farge, etc. Oh, elles me disent, oh là là, non. On a beaucoup trop de travail, elles avaient toutes des livres en cours, c'est bien trop compliqué. Je dis à Georges Duby, non, c'est trop compliqué. Oh, il me dit, mais non, vous avez tort, recevez messieurs Laterza. J'ai reçu ces deux messieurs Laterza, ici même, et charmants, qui m'ont essayé de me persuader. Enfin, finalement, je vais pas tout raconter quand même, on a fini par accepter. On a donc accepté de faire cette histoire de la vie privée. À ce moment-là, on a tout de suite vu le découpage chronologique, une équipe par volume, avec...
Une histoire des femmes, vous voulez dire?
L'histoire de la vie privée avait été faite. Oui, oui, pardon, histoire des femmes. Et on a mis 3 années, bon, Au total, ça représente 70 collaborateurs, majorité de Français quand même, mais aussi des étrangers, des Américains, d'Américaines surtout, Allemands, tout ça. Majorité de femmes, mais quelques hommes aussi quand même, hein. Et tout ça est paru en 91-92, a été traduit dans une vingtaine de langues. Donc oui, c'est apparu comme quelque chose de nouveau.
Il faudrait peut-être le mettre à jour, ce gros volume, enfin en tous les cas, ces gros ouvrages collectifs Michel Perrot, peut-être ajouter un, deux ou trois, je ne sais pas, tomes avec l'actualité, en tous les cas celle qui a existé après 1991. Depuis 30 ans maintenant, des choses se sont passées. L'histoire des femmes a continué d'avancer, parce que l'histoire des femmes est sans arrêt inachevée, bien entendu. Et en particulier, il y a un mouvement que nous connaissons, nous sommes dedans. Alors c'est compliqué quand on pose la question aux historiens et aux historiennes. Surtout vous, vous êtes plutôt sur le 19e siècle. Et là, quand on vous pose des questions sur le temps présent, c'est beaucoup plus difficile. Mais vous êtes aussi une citoyenne engagée. Donc c'est plutôt à les citoyennes engagées que je vais m'adresser en vous demandant comment précisément vous regardez ce moment actuel post-MeToo. Est-ce que c'est un événement historique? Est-ce que c'est un moment historique? Est-ce que c'est une révolution, déjà, avec le petit recul qui est le nôtre de 6 ans? Comment le qualifieriez-vous?
Un événement. Une révolution, peut-être je ne dirais pas jusque-là, parce qu'une révolution, c'est pas rien. Hein. Mais un événement important, très important. Très important pour plusieurs raisons. D'abord, à cause même de l'usage des mouvements sociaux, des réseaux sociaux, je veux dire, dont les femmes ont su, qu'elles ont su s'approprier. Ça, c'est quand même très remarquable. Hein. Les réseaux sociaux, il y a beaucoup de choses à en dire, mais en l'occurrence, ça a permis une communication entre des milliers de femmes. Si bien que ça a donné au mouvement des femmes une ampleur mondiale que aucun autre mouvement de femmes n'avait eu jusque-là. Donc ça, c'est très remarquable et important. La deuxième raison, c'est aussi que dans le mouvement MeToo, il y a la frontière de l'intime s'est déplacée. Dans les années 70-80, c'était la contraception et l'interruption volontaire de grossesse. Là, c'est l'amour si je veux, hein. Faire l'amour avec vous si je veux, vos mains si je veux.
Donc c'était dans les années 70, le corps, c'est la sexualité, vous diriez?
C'est toujours le corps.
Parce que ça reste le corps, et c'était déjà la sexualité. Donc
mais c'est le corps intime, la sexualité, bien entendu, et une sexualité que les femmes ont souvent peut-être plus subie que véritablement voulu. Là, elles s'affirment complètement comme sujet de leur propre corps, de leur propre sexualité. Ça me paraît en effet très important.
C'est même peut-être aussi, d'ailleurs, grâce à des travaux comme les vôtres, oui, et avec vos collègues, puisque c'est une histoire collective, mais c'est aussi les relations entre hommes et femmes, bien plus larges que le mouvement des années 70, qui était justement peut-être plus centré sur le corps.
Oui, oui, oui. C'est en effet très, très important. Et ça touche tous les domaines, c'est vrai. Ça touche les domaines du travail, ça touche les domaines de la politique, hein, qui longtemps en France restait un petit peu à l'écart, sorti quand même avec le mouvement de la parité, remis quand même au premier plan. Mais tous les domaines des rapports hommes-femmes sont effectivement touchés par ce mouvement MeToo, dont la dimension est absolument considérable.
Donc est-ce que ça vaudrait un sixième tome de l'histoire des femmes en Occident, Michel Perrot?
Oui, non seulement en Occident, mais ailleurs. Hein, parce que ce qui est important dans ce que nous vivons, c'est que c'est plus seulement le monde occidental. Hein. Nous avions appelé notre histoire des femmes en Occident, ce qui montrait bien qu'on avait le sentiment de dégager plutôt oui, un modèle occidental plus démocratique, probablement. Mais bon, et avec dans l'idée qu'on ne pouvait pas, nous, écrire l'histoire des femmes japonaises ou africaines, que c'était à elles de le faire. Aujourd'hui, Oui, il faudrait se préoccuper d'une histoire contemporaine des femmes depuis les 30 dernières années et en voyant qu'est-ce que ça signifie la mondialisation pour les femmes. Hein. Voilà, c'est un grand sujet. On parle de mondialisation, de globalisation. Qu'est-ce que ça change sur les rapports entre les hommes et les femmes? Est-ce que les modèles circulent davantage? Est-ce que les modèles vont vers plus de démocratie pour les femmes ou pas? Est-ce que les modèles de mondialisation amènent des raidissements dans certains domaines? Aussi bien dans le monde occidental, on parle du masculinisme, notamment aux États-Unis, mais dans certains pays, comme l'Iran, l'Afghanistan, hein, où jamais les femmes n'ont été plus dominées, notamment en Afghanistan. Alors vraiment, ça atteint des sommets. Et en Iran, hein, où des femmes qui refusent de porter le voile. Sur le voile, je ne me prononce pas. Je veux dire à ça que le voile est un signe de domination sur les femmes. Mais libre à certaines femmes de le porter, ça les regarde. Mais que cela soit imposé, c'est insupportable. Hein. Et les Iraniennes se révoltent contre ça. Eh ben, il y en a plusieurs qui ont perdu la vie à cause de ça. Donc, faire l'histoire des femmes aujourd'hui s'impose plus que jamais dans une optique mondiale, de différenciation entre les sexes, mais naturellement en regardant aussi les différents domaines, qu'est-ce qui s'est passé en France, qu'est-ce qui se passe en France aujourd'hui. Mais je pense qu'il y a des historiennes, des jeunes historiennes, c'est à elles de le faire.
Michel Perrot, quelle est la place du féminisme ou de l'histoire du féminisme dans cette histoire des femmes?
C'est très important, le féminisme. C'est très important parce que c'est l'action des femmes elles-mêmes pour elles-mêmes et pour les changements, naturellement, de rapport entre les sexes. Le féminisme, c'est à la fois action pour l'égalité des droits, hein, et la liberté des femmes. Ça, c'est très important. Et d'autre part, le féminisme est une pensée. C'est pas seulement une action au jour le jour, c'est de plus en plus une réflexion fondamentale sur les rapports entre les sexes, leurs objectifs dans la vie, et y compris même des vues sur le monde. Le féminisme réfléchit à l'écologie. On parle même de féminisme écologique aujourd'hui comme une option. Le féminisme réfléchit à la guerre. Le féminisme réfléchit à la croissance. Bon, le féminisme est pas seulement réflexion sur les rapports hommes-femmes, encore que ce soit absolument fondamental, mais aussi réflexion sur le monde. Je ne dis pas qu'on va trouver dans le féminisme des solutions à tous les problèmes du monde, bien entendu pas. Mais j'indique cela, hein, que le féminisme est une pensée et qu'il y a maintenant, il n'y a pas que Simone de Beauvoir, il y a beaucoup de jeunes philosophes aujourd'hui qui écrivent des livres tout à fait remarquables.
Vous dites le féminisme, une action, une pensée. Vous le mettriez au singulier, pas au pluriel?
Si, au pluriel. D'ailleurs, récemment, avec Eduardo Castillo, qui est à l'origine d'ailleurs de ce livre, c'est lui qui a souhaité des entretiens sur ce sujet, nous avons publié « Le temps des féminismes ». Et j'ai pour ma part, en effet, beaucoup insisté pour que, j'ai pas eu beaucoup de mal, hein, du tout, à mettre ça au pluriel, parce que les femmes sont plurielles, elles ont eu des options différentes, et les féministes aussi. Hein. Et il y a souvent, au sein du féminisme, des options différentes sur tel problème. Donc, laissons le pluriel, qui est libérateur, et qui permet des expressions variées. Quitte à ce que, devant des enjeux majeurs, ces courants se retrouvent pour s'affirmer ensemble. Ce qu'ils ont souvent fait, d'ailleurs.
Et vous-même, Michel Perrot, vous avez évolué dans le temps, dans votre vision du féminisme, cette fois, d'un courant féministe, vous êtes passé à un autre, ou vous êtes resté toujours la même, mais peut-être réconcilié avec l'autre courant auquel vous vous opposiez dans un temps?
J'étais et je suis ce qu'on appelle universaliste, hein. Pas envie de m'enfermer dans une différence, justement, probablement, alors là, faut remonter assez loin, parce que j'avais au fond rejeté ce qu'on appelait le féminin, que je considérais comme une prison dont je voulais me libérer, justement, avec aspiration au monde des hommes, en définitive. Donc, je suis toujours universaliste, mais je pense que celles qu'on appelle essentialistes, par exemple, ont apporté beaucoup parce que elles ont pris à bras-le-corps le sujet femme, peut-être plus que les autres encore. Par exemple, quand Hélène Cixous disait « l'écriture femme », il faut faire une écriture femme et réfléchir à une écriture femme. À ce moment-là, moi, j'étais pas d'accord. Je me disais non, l'écriture, c'est
universel,
c'est universel, voilà. Mais c'est une question importante. C'est quand même une question intéressante qu'elle posait là. Et je pense que les essentialistes ont produit des œuvres, ont produit une réflexion qui m'intéresse beaucoup. Et j'ai été particulièrement en rapport avec les Italiennes, à cause de l'histoire des femmes en Occident, de la Terza, etc. J'ai beaucoup d'amies italiennes, et elles ont une culture beaucoup plus essentialiste, ne serait-ce qu'à cause de la maternité. La maternité en Italie, c'est quand même une façon d'être une femme, plus qu'en France. Le modèle français n'est pas du tout celui-là. Le modèle français aujourd'hui, c'est en Europe, celui qui revendique le taux de natalité le plus élevé et le taux d'activité des femmes le plus élevé. Ce qui veut dire que les femmes françaises conjuguent les deux, maternité et activité. Pas étonnant que les jeunes femmes d'aujourd'hui soient très occupées. Ça paraît très clair.
Pas seulement les jeunes femmes, vous en êtes un bon exemple d'ailleurs, Michel Perrault, vous-même. Et bien d'ailleurs, est-ce que faire l'histoire des femmes vous a permis, cette fois personnellement, de relire différemment l'histoire des femmes de votre famille, l'histoire de votre propre mère? Est-ce que ça a changé quelque chose de ce point de vue-là?
Oui, oui, certainement. Certainement, par exemple, le regard sur ma mère, ça oui. On a eu l'occasion d'en parler. Mon père a évidemment beaucoup compté dans tout ce que j'ai fait. Et j'avais un peu négligé ma mère, et je la revois, je revois son histoire, j'ai même presque envie d'écrire sur elle, parce que pour la retrouver un peu, j'ai réfléchi beaucoup, beaucoup plus à elle. À cause de ça, oui, certainement.
En tout cas, vous évoquiez ce cours de 1973 que vous aviez intitulé « Les femmes ont-elles une histoire ?» En mai 2016, lors d'un colloque à Rome pour les 25 ans de l'histoire des femmes en Occident, vous aviez intitulé votre introduction « Les femmes ont une histoire ». Signe peut-être oui. Qu'en 40 ans, le travail, en tous les cas, avait été fait et bien avancé.
Oui, c'est un sujet satisfaction, en insistant bien sur le fait que tout ça est très collectif, hein, et que, bon, moi je me suis trouvée là au bon moment et j'ai fait ce que je pouvais, mais véritablement, il faut pas attribuer à une seule personne tout ça, c'est extrêmement collectif. Ça a été, partout, un petit peu partout.
Ce travail collectif de l'histoire que vous avez menée, Michel Perrault, c'est ce que nous verrons dans la prochaine émission, puisque nous nous intéresserons au travail de l'historienne, à la place et au rôle de l'histoire dans la cité, et en particulier au vôtre. Merci et à demain.
Merci beaucoup Caroline Brouet et à demain. Au revoir.
C'était À Voix Nue, chargée de programme Daphné Abgral, prise de son Victoria Asper, réalisation Louise André, une série de Caroline Brouet à réécouter et à podcaster sur le site de France Culture et l'application Radio France.